Vous écoutez
RMC. RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête. On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein. Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After. C'est jusqu'à minuit aujourd'hui, un programme très riche. N'hésitez pas à nous rejoindre au 32-16. Vous nous appelez, vous participez également sur RMC Live. Dans quelques secondes, on va vous parler de l'Olympique Lyonnais. Le président Jean-Michel Aulas a accordé une interview exclusive aux antennes d'RMC. Nous décrypterons ces mots, nous nous inquiéterons dans 20 minutes de l'OGC Nice depuis le rachat du club. Tout semble tourner au ralenti sportivement en coulisses. Venez nous dire, supporters des Aiglons, ce que vous inspire cette intersaison à 23h40. Toutes les infos Mercato, ce sera le Mercato Show avec Angie Luata. Nous parlerons aussi dans la deuxième heure du Mercato bordelais, supporters de Bordeaux. Vous nous appelez également pour nous donner votre sentiment, notamment sur l'arrivée de Laurent Koscielny au Girondin. Et puis pour les petits geeks comme moi, comme Ludo, à 23h20, on sera avec un des cofondateurs de MPG Mon Petit Gazon, cette fantasy league de football qui cartonne. Et puis on continuera de s'amuser avec, à la fin de l'émission, le quiz de l'after. Aujourd'hui, pour nous accompagner, un homme heureux, il revient de vacances, il est remonté à bloc. Il nous parlera aussi d'Olivier Dalloglio. Bonsoir Daniel Riolo.
Salut les amis.
Et puis un autre homme, défait lui. Un homme qui a souffert aujourd'hui, qui s'est incliné au foot golf face à Nicolas Putrini. Il était pourtant devant, il a craqué au putt. Si vous nous suivez à la télé, vous avez les images qui sont en train de, voilà, d'être diffusées avec, voilà, le raté in extremis.
Ça le dépasse, ce sport.
Ludovic Obraniak, bonsoir.
Ça sérieusement?
Ouais, je fais ça sérieusement, ouais, bonsoir. Mais tu vois, le t-shirt, alors ceux qui nous voient pas, je reste quand même
beau joueur.
Je reste beau joueur.
Et ça veut dire quoi, sérieusement, tu participes à des compètes?
Ouais, j'étais avec l'équipe de France de foot golf à la dernière coupe du monde et ouais, je participe à fond.
Il y a qui comme ex-joueur qui font ça?
Écoute, t'as Kamel Meriem qui commence à...
Il va tout faire. Déjà, il brille au poker.
Eh ben, Kamel, il brille au foot golf. Il est en train de progresser à vitesse grand V. Et à mon avis, il va postuler pour être dans l'équipe de France là, au prochain Euro.
Il va avoir le temps. Il fait tout.
T'as Adel Chadli aussi. Des Sochaliens, beaucoup. Benjamin Gavanon, ancien Marseillais.
Gardien, lui.
Non, ça, c'était le frère.
Ah, d'accord.
Donc il y a pas mal de
on fera quelque chose sur le foot golf pour faire simple, pour expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un terrain de golf avec des trous de la taille d'un ballon de foot, et le but c'est de mettre le ballon dedans.
La balle, tu mets un ballon de foot et tes jambes, quoi.
Voilà. On a à peu près tout dans le nom, mais sait-on jamais. On préfère quand même le signaler.
D'anciens joueurs de foot qui ne peuvent pas jouer à ça, en revanche.
Il faut quand même avoir. On a beaucoup qui refusent de jouer à ça parce qu'ils jouent déjà au golf et bon.
Mais il y a beaucoup de défenseurs un peu bourrins et tout, ils peuvent pas. Il faut être technique quand même.
Ben, figure-toi que pas forcément.
Alors vas-y, dis-moi
pas forcément.
Les joueurs qui n'étaient pas du tout techniques et qui peuvent jouer à ça.
Non, mais là. Pour te dire, le champion du monde, il fait 1m95, 115 kilos.
Et il doit
et c'est pas un bon. Techniquement, c'est pas un monstre, mais c'est quelqu'un qui sait lire les trajectoires, donc il fait des très belles approches.
À 10 mètres, un putt, plat du pied et tout, faut quand même doser la balle, quoi. Faut être bon. La trajectoire, s'il faut faire un petit enroulé.
Mais comme t'as beaucoup les greens, tu sais, c'est pas régulier, donc.
Lecture du terrain.
Voilà, c'est la lecture du terrain qui fait son
lecture. Messieurs, on fera, ces premiers talks sur le foot golf dans cet été. Ouais. Je m'y engage. Avant cela, si vous le voulez bien, on va parler de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a vécu une période de préparation mitigée sur le plan des résultats des matchs amicaux. Jean-Michel Aulas était tout à l'heure l'invité du RMC Football Show. Il est venu nous expliquer notamment quelque chose qui ressort de ces interviews qu'on va découvrir ensemble. On a évidemment ressorti le meilleur de cette interview avec un Jean-Michel Aulas qui le promet. Combien de temps ça tiendra? Il va se mettre en retrait par rapport au duo Juninho-Silvinho. Écoutez-le.
Se passe plutôt bien, et en tout cas comme on l'avait imaginé. Juninho a pris la direction sportive et gère l'ensemble des dossiers qui touchent au sportif. Moi je l'ai régulièrement au téléphone, pour tout vous dire, on essaye de se téléphoner tous les deux ou trois jours, quelquefois plus s'il convient. Il a choisi un entraîneur, mais que j'avais vu évidemment auparavant, qui est Silvinho, en qui j'ai une grande confiance, parce que c'est quelqu'un qui arrive avec des méthodes un petit peu différentes. C'est un jeune entraîneur, mais avec une grosse personnalité.
Alors Jean-Michel Aulas nous a par ailleurs expliqué qu'il n'entrait pas particulièrement en communication avec Silvinho, pas qu'il ne veuille pas le faire, mais qu'il avait décidé de prendre un peu de retrait. Avant de vous demander votre avis, je vous laisse écouter cette deuxième pastille avec vraiment cette volonté de la part du président de ce club qui nous semble pourtant tellement omnipotent dans le fonctionnement de son club, qu'il affirme qu'il va se mettre en retrait. Écoutez.
C'était prévu d'avoir une mise en retrait progressive pour permettre de tenter d'autres expériences. Juninho a une image qui est formidable à Lyon. Il a toute ma confiance et je pense qu'il est suffisamment, d'une part, indépendant, mais aussi réaliste pour tirer la sonnette d'alarme quand il a besoin. Et on se connaît très bien, il y a une confiance parfaite. Donc c'est lui qui déclenche, je dirais, le besoin d'échanger, de pouvoir analyser. Mais en tout ce qui me concerne, c'est du bonheur, parce que ça permet d'être complètement informé de ce qui est important, sans avoir à être en première ligne pour des choses qui ne le méritent pas.
Alors messieurs, un Jean-Michel Aulas capable de prendre du recul, d'être peut-être moins dans la communication et moins dans le fonctionnement au quotidien du club, est-ce que vous y croyez ?
Daniel ?
Franchement, faut pas se tromper. Ce qu'est en train de vivre Lyon, et je sais pas comment ça va se passer, en tout cas dans les premiers mois, et peut-être même dans la saison, c'est vraiment une révolution. Moi, je crois effectivement à ce que dit Jean-Michel Aulas. Il serait pas allé chercher Juninho et un entraîneur que personne ne connaît et qui a aussi peu d'expérience. Il n'aurait pas fait tout ça si ses décisions s'accompagnaient pas d'une autre, peut-être plus importante, à savoir sa mise en retrait. Il a laissé Juninho choisir l'entraîneur. Je pense que Jean-Michel Aulas connaissait même pas Silvinho. Il savait même pas qu'il pouvait ou qu'il avait envie d'entraîner. Il a fait confiance à Juninho. C'est un énorme risque dans le fonctionnement historique du club. J'ai souvent réclamé, moi, ces dernières années, derniers mois, cette mise en retrait parce qu'il fallait que le club évolue. Parce que Lyon, en fait, aurait pu continuer à faire ce qu'il fait depuis très longtemps, briller en Ligue 1, aller en Ligue des Champions. Bah oui, c'est vrai qu'ils y vont, on va dire, régulièrement. Je sais pas si c'est 2 sur 3 la moyenne, ces qualifications européennes à tous les coups. Mais alors cette stat, il faut se méfier, parce que dedans, t'as aussi des Europa League ou des Ligues des Champions qui se sont très mal passées, ou des tours préliminaires d'Europa League. Enfin, et surtout sur les dernières années, il y avait eu 2-3 événements qui, au niveau européen, avaient montré quand même qu'on était plutôt sur une pente descendante, en dehors de l'année dernière où la qualification pour les huitièmes de finale était quelque chose de positif. Mais sur le fonctionnement depuis 2010, il y avait beaucoup de choses quand même qui étaient à revoir. Et moi, il me semblait que les résultats, peut-être brut pris comme ça d'un coup, semblaient pas moins bons, mais si on les analysait, franchement, c'était moins bon. Donc il fallait faire quelque chose. Il l'a fait, Aulas. Et franchement, ça va pas être simple, parce que Silvinho, il va se faire, franchement, je pense, démonter par les médias français. Il va goûter à ce que c'est qu'être un entraîneur étranger, et surtout que Genesio avait tellement de soutien dans les médias que je pense que ça va pas être simple pour Silvinho. Le moindre faux pas, et déjà dans cette préparation, on a commencé à dire ouais, c'était bien la peine de virer Genesio, c'était bien la peine de ceci, cela. Il avait beaucoup de journalistes amis Genesio qui m'ont pas manqué de repérer les moindres faux pas de Silvinho. Heureusement pour lui, il y a Juninho qui va lui servir un petit peu de paratonnerre. Et parce que comme lui est effectivement est là, c'est là que Aulas a été malin. C'est qu'il n'a pas donné le pouvoir à Silvinho, il a donné à Juninho. Et Juninho est adoré du public lyonnais. Donc à travers Juninho, je pense qu'on laissera, en tout cas le public à Lyon, et les supporters laisseront du temps à Silvinho, même si ça se passe pas très bien et que les critiques sont sévères. Et je suis sûr, vraiment, je pense qu'on va être face à une mauvaise foi de niveau international sur Silvinho de la part de tous les amis de Genesio dans les médias. Mais alors ça, j'en suis convaincu. Donc la réponse, oui, j'y crois, et ça va pas être simple.
Ludo, est-ce que tu crains pas que dans la nature même de Jean-Michel Aulas, je pense, naturel, ne revienne pas au galop, à la moindre anicroche, pour reprendre la lumière?
C'est fort possible, mais il y a une personne qui empêchera ça, et à mon avis, c'est Juninho, ouais. Puisque il est considéré, nous dans le jargon, on appelait ça le fiston à l'époque, c'est-à-dire que c'est c'est la personne en qui il a confiance, le joueur qu'il respecte, il l'a respecté en tant que joueur, en tant qu'homme aussi. Si Juninho a mis autant de temps à revenir, je pense que c'était à certaines conditions. Et la condition, à mon avis, la plus importante, c'était que Jean-Michel Aulas lui laisse de l'espace pour pouvoir justement imprégner sa patte. C'est ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs. Je crois pas que le président ait vraiment le choix sur là-dessus, on le sent. Sans quand même qu'il bouillonne, hein. Tu sens que tu peux pas comme ça arrêter du jour au lendemain de te mêler du sportif. Mais finalement, il y a qu'un homme qui peut lui faire accepter ça, c'est Juninho. Et puis après, lui, depuis qu'il est arrivé,
il en 4 pour faire revenir.
Exactement.
Si c'était pas pour qu'effectivement ça se passe comme il a annoncé que ça allait
se passer. Et puis lui, honnêtement, depuis son arrivée, c'est brillantissime sur la communication, sur la manière de gérer les choses. Encore aujourd'hui, voilà, tu sors d'une préparation qui est vraiment, on l'a dit, en dents de scie, en étant gentil. Il arrive à te faire passer la pilule avec un message pour les supporters.
Et je comprends pas ce qui vous fait dire mitigé ou en dents de scie. Je veux dire, c'est pas assez.
Oui, elle est pas bonne.
La prépa, elle est pas
après,
bonne.
T'as quand même une victoire contre Arsenal qui vient sauver les meubles.
C'est pas vrai, la victoire contre Arsenal. Elle arrive quand Arsenal fait jouer, limite les enfants, quoi. Non, il faut dire, c'est ça le problème. C'est que dans la révolution qu'il a envie de mettre en place, je crois pas qu'une telle préparation était prévue. Et je pense qu'il peut y avoir un petit doute, parce que Silvino n'a jamais entraîné à ce niveau. Donc lui-même, comment il affronte cette préparation et
par rapport aux joueurs aussi, hein, qui n'ont pas l'habitude de travailler de cette façon.
Par rapport aux joueurs et par rapport aux choix tactiques. Parce que au début, quand ils sont arrivés, on a annoncé 4-3-3. Et puis petit à petit, si on regarde les dernières compos, en tout cas la dernière, c'est plus 4-2-3-1. Celle d'avant contre Liverpool. Et quand on parle dans la prépa et tout, parenthèse, mais Liverpool à ce moment-là, ils perdaient un petit peu partout dans les matchs de prépa. Ils se sont refaits en battant Lyon. Bon, ce jour-là, ils jouent en 4-3-3 contre Liverpool. Après, donc même là, on ne sait pas s'il a les idées totalement claires là-dessus. Est-ce qu'il va prendre un joueur? Franchement,
est-ce qu'aussi on nommait pas le fait que les joueurs qui sont partis sont des joueurs ultra importants pour l'Olympique Lyonnais et qu'ils n'ont pas été remplacés. Ndombele, c'était un joueur ô combien important dans sa qualité à perforer les lignes, que ce soit avec le ballon ou par la passe.
Ndombele, il a été vachement irrégulier, Ludo,
Si Tottenham, ils se mettent dessus à 60 millions, ils sont pas fous, Tottenham, tu vois, c'est un joueur.
Ils se mettent dessus parce qu'il a un potentiel et qu'ils se disent qu'eux vont faire en sorte qu'il ne soit plus irrégulier comme ça et qu'il soit tout le temps top niveau. Mais dans les matchs de prépa, Pochettino a été confronté à la même chose par rapport à ce joueur, c'est son irrégularité. Je te parle pas du potentiel clair. Évidemment, on sait qu'il est capable de faire des super matchs, mais après, est-ce qu'il est remplacé? C'est plus le système de jeu qui va falloir trouver. Et est-ce qu'il a les joueurs pour jouer comme il a envie de jouer?
Au-delà de son irrégularité, c'est-à-dire que son profil est un profil très difficile à trouver. Aujourd'hui, avoir un perforateur comme ça qui arrive à casser des lignes, qui arrive à porter le ballon, à créer des décalages, c'est aujourd'hui très dur à trouver. Donc, Thiago Mendes, pour moi, il vient pas en remplacement de Ndombele.
Bah, c'est l'idée pourtant.
Remplacer Fekir.
C'est l'idée s'ils sont à deux.
Mais remplacer Fekir, c'est pas simple non plus. Et puis le troisième larron, c'est Ferland Mendy aussi, qui était une pièce importante du puzzle. Et ces joueurs-là, pour l'instant, tu prends Jean-Lucas au milieu, tu connais pas vraiment. Andersen, c'est un jeune joueur.
Il peut avoir plus de mal.
Pour l'instant, c'est deux matchs de bourde. Donc, pareil, il va falloir lui laisser un petit peu de temps à ce gamin-là, aux côtés de Denayer. On va espérer qu'il progresse.
Mais c'était, effectivement, il remplace des mecs qui étaient installés.
Ouais.
Là, non seulement c'est nouveau projet, nouvel entraîneur, nouvelle pression, et joueur pas confirmé, parce qu'Andersen, c'est pas un joueur confirmé. Quand il a signé, j'avais dit, mais en Italie, c'est limite ouais, si on le connaissait. Plein de gens ont pas cru. On me dit, tu racontes n'importe quoi. Il y avait des gros clubs dessus. Puis, ok, si les gros clubs italiens avaient été dessus, je peux vous assurer qu'il y serait allé. Ça veut pas dire qu'il est pas bon. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il est pas bon. Ça veut dire que c'est pas un joueur confirmé. Jean-Lucas, pareil. Mendes, on en parlait hier soir. On a beaucoup aimé ce joueur. Pour l'instant, il a tout le temps évolué dans un 4-2 et 3-1 ou le reste, en tout cas, à 2 au milieu, mais pas en point de base dans un milieu à 3. Donc lui aussi, il va falloir qu'il s'adapte. C'est plus, et c'est là que je suis surpris, et je sais pas s'ils vont recruter ou pas, mais Fekir, bonne ou mauvaise saison, en bout de piste, pas capable de jouer dans un 4-3-3, on peut émettre beaucoup de critiques. Il n'empêche que ça faisait un joueur offensif fort de plus. Et lui, j'ai pas l'impression que, même numériquement, il est réellement remplacé.
Il a effectivement pas été remplacé.
C'est plus là le problème.
On va accueillir Sacha, puisqu'on est parti sur le sportif. On parlait tout à l'heure de la position.
Moi, je pense
que ça manque
de deux joueurs. Il y a deux joueurs à Lyon.
De Jean-Michel Aulas. Sacha, supporter de l'Olympique Lyonnais, bonsoir.
Bonsoir messieurs. Bonsoir
Sacha.
Alors cette préparation, elle a été un petit peu ratée complètement, même au dire de Daniel, avec une victoire en trompe-l'œil contre Arsenal.
Bah, je sais pas moi si vous me dites à quel moment
moi j'étais
réussi,
pas, moi j'étais pas inquiet après la défaite de Liverpool. Par contre la défaite de Bournemouth, elle t'amène des vraies inquiétudes.
Elle amène quelques questions, Sacha.
Ouais. Bon après je vais pas aller à l'encontre de Daniel parce que son constat est Ludovic pareil. Votre constat est clair, net et précis. On parle de résultats. Après, moi, c'est surtout en termes de contenu que j'ai trouvé que c'était intéressant parce que Silvino a testé des choses quand même. On a eu deux, trois jeunes qui ont fait match aussi. Donc, voilà, je pense qu'on était plus dans une optique de tester des choses. Et Daniel l'a bien dit, on est dans une révolution aussi. Donc, moi, j'ai envie de jouer la carte de la patience pour le moment en attendant de voir ce que ça va donner dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, on a Silvino qui essaye de construire brique par brique, d'avoir son groupe. Alors après, que ça manque de joueurs un peu d'expérience devant à la place de Fekir, pourquoi pas. Surtout en milieu offensif pour peut-être organiser les choses. Moi, j'aurais bien vu Aouar aussi dans ce secteur-là. Ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas non plus crier au loup tout de suite, dans le sens où on a été, je pense, suffisamment poussif pour le départ de Genesio. Et que maintenant, voilà, faut laisser du temps à Silvino, laisser le temps d'imprégner sa patte et de voir ensuite ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que cette préparation, on est quand même mitigé parce que c'est vrai que les résultats ont pas suivi. Mais après, il y a beaucoup de choses qui ont été testées. Il y a beaucoup de systèmes de jeu qui ont été testés aussi. Donc, à voir ce que ça peut donner par la suite.
Ludo, qu'est-ce qui valent réellement ces matchs de préparation de début de saison? On imagine que le joueur que tu as été ne voulait pas forcément se blesser, que oui, on vous laisse faire sa place, mais qu'en même temps, il y avait un peu de retenue. Quelle est la valeur réelle de ces matchs d'avant-saison?
Écoute, je donne pas vraiment d'importance aux premiers matchs, tu vois, les premiers matchs qu'ils ont fait, je crois que c'était contre le Servette de Genève ou le Génois, je sais plus, où là, il y a des 4-3, que tu gagnes, que tu perdes, à la limite, tu viens de reprendre ta saison. Eux, ils ont eu plus de vacances qu'à l'accoutumée parce que Juninho voulait absolument que les joueurs aient 3 semaines, voire plus de vacances. T'as tes internationaux ou ceux qui ont joué pendant les vacances qui reviennent de manière échelonnée. Donc tu peux pas vraiment tirer d'informations réelles de ces premiers matchs. Par contre, le match de Liverpool pour moi est un match sur lequel tu peux quand même avoir quelques indications. Le match d'Arsenal, alors Daniel me lit, moi j'ai
En fait il y a quoi, il y a 4 défaites, une victoire. Excusez-moi, mais votre mitigé et la victoire,
ce qui est le match le plus important, c'est le match de Bournemouth parce que t'es censé maintenant quasiment être dans la dernière ligne droite de la préparation à ton premier match de championnat. Or, tu prends 3-0 contre Bournemouth, qui est quand même pas une équipe extraordinaire du championnat anglais. C'est une équipe qui joue quand même la deuxième partie de tableau. Prendre 3-0 comme ça, avec autant de lacunes sur le plan défensif, ce qui était déjà le cas la saison dernière. Mais encore une fois, il te manque Koné était pas là.
Dans les matchs de prépa. Ouais, mais lui il va falloir qu'il s'installe dans l'équipe, c'est pas gagné non plus parce que là ils ont joué un peu sans arrière gauche, Marçal je crois s'est blessé et ils ont passé Raphaël un coup à gauche et une autre fois Tété a joué à droite et c'est Dubois qui a dû passer à gauche.
Mais faut pas se mentir.
Est-ce que tu t'intéressais pas quand tu faisais les matchs de prépa peut-être plus à ce qui se passait sur le terrain qu'à limite au résultat final parce que souvent t'as énormément de changements, tu démarres avec une équipe, tu termines avec l'autre, l'équipe en face pareil, elle peut démarrer avec une équipe et terminer avec l'autre. Est-ce que tu vois des automatismes? Est-ce que tu vois quelque chose de positif dans le jeu? Est-ce que tu sens qu'il se passe un truc? Ça,
c'est sur l'état d'esprit, surtout. Juninho a pas été satisfait de l'état d'esprit qui a été.
Je voulais en venir à ça. Ça, je l'ai pas complètement senti. Tu sens qu'ils essayent, mais Je suis désolé, mais si les supporters lyonnais me trouvent sévère, mais dans ces cas-là, qui s'en réfère à la dernière interview de Juninho, Juninho a été bien plus sévère que moi. Lui, carrément, il les a un peu défoncés. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit-là?
Ça manque d'âme, de profondeur.
Voilà, c'est pas grave. Donc,
alors le constat est assez dur sur le plateau. On est avec Dylan. Dylan, lui, est plus confiant. Bonsoir, Dylan.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut, Daniel. Bonsoir, Dylan. Ludo. Bonsoir, Timothée.
Bonsoir. Alors du coup, toi, tu voudrais un petit peu tempérer ces propos et cette inquiétude de Daniel et de.
Moi, j'ai aucune inquiétude. Il s'agit pas d'inquiétude. Je parle de là maintenant. Après, on va voir le premier match de championnat. Qu'est-ce qui s'enchaîne? Comment Sylvain va travailler? Moi, c'est un constat de ce qui s'est passé pour l'instant.
Dylan.
Après, moi, je suis d'accord avec Daniel. Je vous écoutais depuis 10 minutes. Déjà, je pense qu'il faut revenir là-dessus, que Aulas prenne du recul. C'est la meilleure décision qu'il ait prise depuis 5 ans. C'est enfin, il va laisser des gens gérer le sportif. Lui, il va gérer l'administratif. Et ça, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Il laisse les clés du camion à quelqu'un qui découvre le poste, Juninho, même Sylvinho. Mais c'est des gens à qui on peut faire confiance. Nous, à Lyon, c'est des gens qu'on aime. Je parle de Juninho surtout. Et voilà, moi je suis impatient que la saison commence parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas senti un élan de. Pas comment dire, mais de professionnalisation du club. Ça faisait 3 ans qu'on était enfermés dans notre système lyonnais, avec Genesio, avec que des mecs comme ça. On ne travaillait pas, on restait enfermés sur nous-mêmes. On n'avançait pas, on ne faisait rien. Et là, on s'ouvre un petit peu. Même dans le recrutement, on s'ouvre. Et franchement, moi, je suis impatient que ça commence. Les matchs de préparation, comme vous dites, ça, c'est pas important qu'on gagne 5-0 contre le Genoa ou qu'on perde 4-3. Dans 2 semaines, on l'aura oublié. Ça, c'est pas important.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et même voilà. Le Monaco-Lyon, tu l'auras, à part si vraiment il y a une cata, genre ça se passe super mal. Normalement, le Monaco-Lyon, tu dois également l'oublier assez vite. Il doit, voilà, j'imagine, te Monaco, permettre de te rassurer déjà dans ce qui va se passer sur le terrain.
Ouais, je suis pas forcément inquiet. On fera un premier bilan fin septembre, quand tu auras eu une dizaine de matchs de championnat, 1 ou 2 matchs de Ligue des Champions. Là, on pourra faire un premier bilan. Mais par contre, moi, j'ai peur, comme disait Daniel, c'est que Sylvinho, il va se faire mais fracasser. Si on perd à Monaco vendredi, samedi, on appelle le retour de Genesio. Et ça va être terrible pour lui. Il n'est pas prêt. Ça va être important de travailler là-dessus. Il faut que Juninho le protège, entre guillemets, et qu'il continue à travailler sereinement pour pouvoir avancer. Et effectivement, peut-être recruter. Moi, je pense qu'il faudrait recruter encore un joueur ou deux. Un arrière-gauche, parce que moi, Koné, je suis pas convaincu du tout.
Ouais, mais là, tu vas pas recruter un arrière-gauche parce qu'ils sont là. Maintenant, tu les as pris.
C'est une chose, mais. Koné, c'est un très bon joueur. Je l'ai vu évoluer à Lille toute la saison, honnêtement. D'accord. Vous allez voir, c'est un très, très bon joueur.
Non, mais moi, je prendrais un joueur au milieu et un joueur offensif.
C'est moins fin techniquement que Ferland Mendy. Par contre, dans les duels et défensivement, c'est intraitable.
Moi, je prendrais 2 joueurs parce que au milieu, il mine de rien, il y a, si tu parles de quantité. Moi, s'il arrive à comment s'appelle le joueur au milieu là, à Diop, s'il arrive à faire quelque chose de ce joueur, je veux bien, mais moi, je trouve que c'est
non, mais
je trouve que c'est faible. Donc, au milieu, tu te retrouves un petit peu avec quoi? Tu te retrouves avec toujours Touzard. Aouar, qui va devoir s'émanciper et grandir quand même à un moment.
C'est Traoré qui me pose problème, moi, dans la ligne offensive.
Je parlais de la ligne offensive. Ouais. En joueur, on va Thiago dire, Mendes, sur lequel tu peux compter, quoi. Thiago Mendes.
Mais s'il part en 4-2-3-1, comme ça a l'air de s'articuler. Bon, au milieu, tu vas prendre quelqu'un qui va être là pour
Il faut un joueur de plus.
Je pense que Traoré rentre plus dans les attentes nouvelles de l'Olympique Lyonnais. C'est un garçon qui a du mal à se faire mal, honnêtement. Et que sur le côté droit, t'as des joueurs, je sais pas quelle est la force de frappe de Lyon, mais t'as des joueurs
peut-être. Il y avait Malcolm, il y a Ziyech aussi qui est un très bon joueur.
Il y a encore des possibilités.
Moi, je verrais quelqu'un d'autre
sur le marché. Il y a encore 2-3 possibilités. Lyon a quand même de l'argent, hein.
Absolument.
Lyon est quand même un club qui va, bon, alors, Aulas conteste les 300 millions de budget. Il veut qu'on réduise en enlevant pas mal de choses. Pourquoi pas? On peut descendre à 200. Ouais. On descend à 200, je pense qu'ils ont du blé. Hein.
On va conclure, Daniel, justement sur cette notion du marché des transferts, pour vous dire que lors de cette interview, Jean-Michel Aulas nous a expliqué que Anthony Lopez disposait d'un contrat, mais que cela bloquait pour des questions d'agent et que Moussa Dembélé resterait bel et bien à Lyon. Merci à Dylan d'avoir été avec nous. On revient dans un instant dans l'after et cette fois, on va vous parler d'un autre club qui suscite l'inquiétude, lui pour de bon, c'est l'OGC Nice. Depuis son rachat, rien ne va plus. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'Afterfoot, Timothée Mémon.
Rebonsoir, si vous nous rejoignez, bienvenue pour l'after. C'est jusqu'à minuit. Tout à l'heure, on va jouer, on va vous parler d'MPG. C'est le jeu qui littéralement passionne les plus mordus de Ligue 1, de Serie A, de Première Ligue et de Ligue 2 depuis peu. On sera avec l'un des cofondateurs de cette application. Et puis à la fin de cette émission, on va jouer. Ce sera le quiz de l'after. Vous n'hésitez pas à nous appeler pour nous rejoindre au 32-16. Il y aura pour l'auditeur vainqueur la possibilité de remporter FIFA 2019 sur PS4. On a un vrai cadeau aujourd'hui, c'est pas un livre qui traînait dessous.
2020.
FIFA 2019 sur PS4 qui sera possible de
non, on ressort les trucs dès
2019, c'est terminé.
2019, on est en plein dedans. Le prochain le 2020 va sortir en septembre.
Ouais. Bah donc on n'est pas en plein dedans, on est sur la fin rouillée des genoux là.
Ouais, on fait les fonds de tiroir pour les cadeaux là, depuis le début de l'été.
Ça doit être le 2020, parce que le 2019 il est fini quoi.
Bref, en tout cas, il y aura un jeu.
Tu joues, tu prends Lyon, t'as encore Fekir dedans. Donc il y a un souci quand même, tu vois.
Bah justement, il y a des mises à jour, Daniel. Il y a des mises à jour. C'est-à-dire que ta console est connectée, les transferts se font automatiquement. C'est extrêmement bien fait. On en reparlera tout à l'heure lors du quiz et on va vérifier ça évidemment. Avant cela, on va évidemment parler de l'OGC Nice. Alors racheté dans le courant du mois de juin par Jim Ratcliffe, l'une des plus grosses fortunes du Royaume-Uni, à la tête d'un géant Ineos. Nice doit logiquement passer dans une nouvelle dimension financièrement. Le club azuréen devrait être amené à concurrencer les cadors de cette Ligue 1. En tout cas, c'est l'idée à terme. Mais voilà, pour le moment, l'officialisation traîne en longueur. Elle ne pourrait intervenir qu'au 15 août seulement, peut-être même plus tard. Et pendant ce temps-là, eh bien, rien ne se passe à l'OGC Nice. L'OGC Nice perd ses matchs amicaux. 7 matchs amicaux, 2 victoires seulement, 5 défaites, dont 2 énormes déculottés.
C'est pas des défaites, c'est des raclés
énormes. Contre Burnley et Wolfsburg, 6-1 et 8-1. Il n'y a pas de recrutement. Bref, messieurs, est-ce que cet attentisme, pour ne pas dire cet immobilisme à Nice créé par ce rachat, vous inquiète ? Est-ce que Nice n'est pas en train de se mettre en danger en attendant évidemment que les fonds arrivent et que le projet se mette en place ?
Bah, c'est le calme avant la tempête, hein, j'ai envie de te dire. Après, t'achètes pas un studio dans un quartier de Nice, tu vois. C'est une opération d'une telle envergure, d'une telle ampleur. Je n'ose imaginer les clauses qu'il doit y avoir dans le contrat. Forcément, c'est des fonds étrangers, donc ça doit être étudié aussi par l'organisme qui est Tracfin. Donc, je suppose qu'il y a un tas de vérifications et de petits paragraphes dans un contrat d'une telle ampleur qui fait que et ça prend du temps. Je t'ai dit, t'achètes pas un pain au chocolat à la boulangerie du coin là. Donc t'es à plus de 100 millions, t'as plus de 100 millions d'euros pour l'achat d'un club. Je suppose qu'en plus nos amis chinois ont dû mettre les connaissants certaines clauses qui doivent encore être à définir ou à voilà. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Après, bah ils se rattraperont au mercato, soit sur la fin du mercato et encore, ça me paraît juste, ils se rattraperont sur le mercato d'hiver.
C'est ça ma question. On est aujourd'hui le 6 août, le championnat reprend vendredi. Est-ce que le recrutement justement peut arriver, Daniel ? Est-ce que tu crois à la possibilité comme ça d'arriver, de prendre les manettes et d'avoir déjà dans sa manche les joueurs nécessaires au recrutement que souhaite Patrick Vieira ?
Non mais. Le problème, c'est pas Ratcliffe qui arrive quand il arrive, machin. Là, aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas de direction dans le club. Bon, ça, c'est une chose, le côté administratif, le fait que la vente doive se faire, que le nouveau boss arrive, et on le dit et on le sait, plein d'argent. Mais d'abord, ça ne veut pas dire qu'il va mettre beaucoup d'argent, ça, on n'en sait rien, on ne sait pas quel sera effectivement son projet. Ça, c'est pour le côté administratif. Le reste, le sportif, Vieira, les joueurs, ils sont encore là. Genre la dernière raclée, ils l'ont pris sur le terrain. T'avais les joueurs. Hein. Ils ont pas pris 8-1 avec la réserve. Dante était là. Enfin bon, la plupart des joueurs étaient là. Je crois qu'il y avait que le gardien qui manquait, il me semble. Hein.
Après, quand tu vois l'effectif de l'année dernière, alors ils ont été, c'est ce qu'ils ont fait, c'est formidable au vu de ce qu'ils ont présenté, de l'effectif qui
était
là.
Oui, non,
tu perds en plus Saint-Maximin qui était ta seule arme offensive.
Voilà,
revient de sélection tardivement.
Les scores sont quand même.
Saint-Maximin, pour le détail, parti pour 22 millions à Newcastle, ouais. Messieurs.
Les scores sont complètement fous et même surréalistes. C'est pas normal de prendre deux valises pareilles. Donc tu te dis, est-ce que les mecs Et Vieira compris, parce que c'est bizarre que lui-même n'arrive pas à comment dire à serrer les boulons pour dire bon ok il y a pas de patron, on a plus de président, la vente est en train de se faire et tout, mais nous sur le terrain on continue à s'entraîner, on prépare la saison. Bon, effectivement c'était déjà le problème de Nice l'année dernière, c'était de le jeu offensif. Là t'as perdu le seul mec qui arrivait à faire des choses. Oui, si recrutement il doit y avoir, j'imagine qu'ils vont prendre un ou deux joueurs offensifs.
D'autant que ça
pour le reste, j'avais l'impression qu'il n'y a plus d'équipe, que tout a disparu.
Ça redistribue les cartes parce que t'as un nouveau propriétaire qui arrive. Les mecs, ils devraient justement essayer de se dire. Il va y avoir du changement.
Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est ça, c'est que tout le monde semble amorphe et que Vieira ne réussisse pas à dire très bien, la vente c'est en train de se faire, ne nous soucions pas de ça, préparons-nous et avec les joueurs. Tiens, 80% c'est quand même encore l'équipe de l'année dernière, quoi. Bon, ok, t'es peut-être pas une équipe de dingo, mais tu prends pas deux raclées pareilles. Là, j'ai l'impression que les mecs, ils sont totalement démobilisés. C'est ça qui est le plus inquiétant. En même temps, faut arrêter avec ces histoires d'inquiétude et tout. Ça veut pas dire qu'ils vont pas se remobiliser, que la vente se faisant, ils vont pas dire, bon, on va quand même prendre deux joueurs et puis que d'ici un mois, ça reparte. Mais le début de saison, peut être un problème.
Un peu ralenti.
Parce qu'ils sont, dans une espèce de fou, là.
On peut ne pas être forcément inquiet, mais. Match amicaux ou pas, quand t'en prends 8, non, ça interpelle quand même.
Je sens que t'as pas joué, quand même. T'as pas joué.
Julien est supporter de l'OGC Nice. Il est avec nous au 32-16. Il nous rejoint. Bonsoir, Julien.
Bonsoir, monsieur.
Alors, en ce qui te concerne, est-ce que pour toi, cette vente, justement, et surtout cette vente au ralenti, qui se fait ralenti, l'officialisation qui traîne, impacte les joueurs et surtout, est-ce que ça t'inquiète, ces matchs amicaux avec, on le rappelle, ces deux déculottés, 6-1 face à Burnley, 8-1 face à Wolfsburg?
Bah, les déculottés, oui, comme disait Daniel, en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est que la défense centrale, c'était la classique, c'est dans TRL. Bon, à droite, il n'y avait pas Tal, parce qu'Atal, il est blessé, mais à gauche, c'est Sarr. Par exemple, Sarr, ça fait trois saisons qu'on voit que c'est pas un arrière à gauche. Et quand on voit qu'ils vendent, les deux seuls arrière à gauche possibles, Boscagli et Perrault, on dit que Sarr va faire toute la saison à gauche, ça va être une catastrophe. Maintenant, après, est-ce que ça m'inquiète? Je crois pas. Parce que, ce que j'ai compris du discours du futur président, c'est que c'était un projet qui allait se faire dans de longues années. Et qu'il voulait inscrire le club, l'OGC Nice, en Ligue des Champions dans les années qui viennent, pas pour la première saison.
Ah, mais c'est à chaque fois qu'il y a un nouvel investisseur, il veut tout de suite aller en Ligue des Champions. On l'a entendu de Bordeaux, évidemment de Marseille. Lille, je sais pas s'il l'a trop dit, lui, il veut surtout vendre les joueurs, il a pas vraiment des. Enfin, c'est quand même mieux s'il y a la Ligue des Champions, pour mettre tes joueurs dans la vitrine. Monaco, évidemment. Bon, Lyon, on n'en parle pas, il n'y a plus beaucoup de place quand même, hein. Mais bon, vas-y, continue, excuse-moi.
Non, pardon, mais en fait, comme tu dis, c'est vrai, ça va jouer beaucoup en concurrence, mais quand on voit, par exemple, juste les noms qui sont cités pour venir renforcer, on va dire, l'effectif dès que l'achat sera officialisé, parce que je crois qu'il reste, dans deux semaines, ça devrait se faire vraiment à cause de l'autorité et la concurrence, si je dis pas de bêtises. C'est pas des noms non plus qui font rêver et qui se disent, on va avoir des joueurs qui vont nous permettre d'aller jouer les trois premières places. Moi, je vois quatre noms, à part peut-être Bouffal, mais Bouffal, c'est pareil, c'est un joueur qui, depuis quelques saisons, a disparu. Voilà, c'est le seul nom qui fait plus ou moins rêver.
Il a fait une saison, on s'est enflammé, il est parti à droite, à gauche. On peut pas dire que ce soit une valeur sûre. Mais oui, ce qu'il faut, parce que tu regardes l'effectif là. Saint-Maximin s'est barré, mais pour le reste, pardon, tu dis ?
Il y a que Atal qui restera le détonateur peut-être de ce qu'on peut avoir de jeu offensif, alors que c'est un arrière-droit.
Après la CAN et tout, là, on peut pas dire qu'il soit vraiment revenu, donc il va lui falloir un petit peu de temps. Et effectivement, lui, ça va faire partie des joueurs forts. Est-ce qu'il jouera toujours latéral ou est-ce que maintenant il va jouer plus haut sur le terrain? Mais bon, pour le reste, t'as gardé ta charnière, les joueurs au milieu de terrain. L'effectif ne devait pas te conduire à prendre deux énormes raclées.
Tu vas faire comme l'année dernière.
Mais il faut prendre deux, trois mecs.
Tu vas serrer les fesses parce que défensivement, ils savaient bien faire. Voilà. Donc tu vas serrer les fesses. Tu vas avoir tes attaquants là qui vont assez vite devant avec Maolida et d'autres. Et puis tu vas essayer de faire comme ça jusque. Je pense que c'est une erreur de se précipiter sur le mercato. S'il te reste 10 jours, c'est le meilleur moyen de faire un ou deux mecs
pour caler le trou au milieu du tableau, le temps que Radcliffe dise combien d'oseilles il veut mettre sur la table pour éventuellement jouer dans la cour des grands la saison d'après. Mais sur cette saison-là, Déjà, signe au plus vite, prends deux joueurs d'ici la fin du mercato, des joueurs offensifs, et
garde tes joueurs. C'est là aussi où je voulais en venir, c'est que on a un peu la sensation que dans cette période,
peuvent se barrer,
dans
genre cette période d'incertitude, comme Attal au dernier moment.
Non, Attal peut-être pas, mais on a entendu parler des départs d'Adrien Tamez, de Malang Sarr, Walter Benitez, Rémi Walter. Bref,
ouais, si ces joueurs partent, là, c'est maintien là. Hein. Ouais. Tu vises le maintien après. Là.
Mais justement,
Radcliffe, il arrive avec toute son oseille pour se retrouver en Ligue 2.
C'est, étant donné que administrativement ça prend du temps, est-ce que Nice est pas en train de mettre en péril sa saison à venir et de prendre de très gros risques? On ne doute pas une seconde du projet financier. Il y a 12 milliards derrière Jim Radcliffe, il y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce qu'il ne risque pas de se mettre dans une situation extrêmement périlleuse sur cet exercice à venir?
Sur cette saison, s'il reste en l'état, oui, ça peut. La saison peut être dure. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, descendre, mais ils peuvent se retrouver dans une partie dangereuse de tableau.
Si tu regardes l'équipe de la saison dernière, tu te dis quand même qu'en étant il y a une certaine stabilité défensive qui faisait que Nice arrive quand même avec la saison qu'ils nous ont proposée à être dans la première partie de tableau, ce qui est
l'année dernière Monaco avec un effectif bien plus important et bien plus riche s'est retrouvé à jouer le match.
Ça peut être une affaire de contexte. Et si d'ici la fin du mercato tu prends deux mecs, tu peux réajuster cet hiver. Bon, que la saison de Nice soit compliquée du fait d'une reprise tardive, c'est possible, mais bon, on va attendre déjà que Radcliffe prenne le club et on voit s'il met trois ronds sur la table pour prendre deux joueurs d'ici 31 août.
Au milieu, t'as quand même des joueurs de qualité avec Lesmelou, Cyprien et d'autres. Derrière, on l'a dit, ça tient quand même la baraque. Il te faut juste recruter un ou deux joueurs sur le plan offensif qui puissent t'amener un peu de créativité et de profondeur, parce que finalement... cette équipe, elle joue souvent bloc bas et ils ont souvent fait la différence la saison dernière en gagnant 1-0 par-ci, 1-0 par-là, en étant solide défensivement.
Est-ce que tout le monde va s'attendre à ça? C'est la question aussi. Est-ce que tout le monde va connaître le jeu un peu de Nice maintenant? Le jeu proposé par Vieira, c'est-à-dire on joue bien derrière et après on part en contre-attaque.
C'est le jeu de tout le monde en Ligue 1.
Mais on peut se renforcer, quoi.
T'inquiète pas, tu vas pas surprendre grand monde et tu vas pas.
Mais je crois qu'il faut pas être. Faut pas être trop inquiet et alarmiste non plus. Quand tu rachètes des clubs de cette envergure, tout comporte des risques aujourd'hui. Et c'est vrai que tu peux pas faire autrement. Le rachat, ça prend du temps.
Et je suis curieux de voir ce qu'il veut faire avec le club, Radcliffe. Hein. Pourquoi il vient Nice
Il l'a annoncé, non? Déjà, c'est lui il est dans le sud, donc il achète la marque.
Ouais. La marque Nice, la Riviera,
la marque Côte d'Azur.
C'est la
marque
des Anglais.
La marque Côte d'Azur, je l'annonce depuis des années que c'est la marque qu'il faut acheter en France. Après, il faut voir quel est le réel développement, parce que moi, à un moment, je pensais que ça pouvait attirer beaucoup de monde au stade et tout, et à chaque fois, on a l'impression que ça fait pas bouger tant de monde que ça.
Si tu fais une belle équipe un peu compétitive, enfin, quoi que tu me diras, ils ont quand même été actuels,
ils ont fait. Finalement, je pensais que ça bougerait beaucoup plus que ça, là. Je suis toujours un petit peu déçu, j'ai toujours l'impression qu'il y a plus de gens qui aiment le foot que ça dans ce coin-là. Ouais. Finalement, peut-être pas tant que ça. Quoi.
On en saura un peu plus, en tout cas, à partir du 15 août ou peut-être après pour l'officialisation. Jim Radcliffe en dira sûrement plus sur ses envies. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va te remercier d'ailleurs en t'offrant deux places pour le film Le Gangster, le Flic et l'Assassin. C'est un thriller dit jouissif. Voilà, il y a plein de gangs, il y a un tueur en série qui s'appelle K. Bref, ça fait extrêmement envie.
Film jouissif, merci beaucoup. Donc.
Et c'est Le Gangster, le Flic et l'Assassin version 2020 et pas 2019. Contrairement à FIFA, non, c'est bel et bien FIFA 2020, pardon, qu'on vous offrira tout à l'heure.
Tu es rassuré, Daniel.
On vous offre la cassette VHS des Barbouzes.
Merci messieurs, on revient dans un instant. Ce sera avec Angie Loitac qui va nous parler du mercato. On va décrypter toutes les informations mercato du jour. Et puis en deuxième heure, on parlera de Bordeaux, on parlera d'MPG. Et puis on jouera avec le quiz de l'After. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot, Timothée Mémon.
22h43, c'est l'After, c'est jusqu'à minuit. On va parler tout de suite Mercato, avec le Mercato Show, et c'est Angie Loata qui nous a rejoint.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le marcher.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Là, je peux le faire. Salut, Simon. Salut, Angie. Merci d'être avec nous. Pas mal d'informations en cette journée sur le mercato. Et on commence avec l'info de la soirée. C'est Kevin Trapp qui quitte le Paris Saint-Germain.
Et qui retourne à Francfort. Il n'y a pas trop de surprises. On savait qu'il y avait des négociations, qu'il y avait une envie des deux côtés également de prolonger l'aventure. Il était la saison dernière en prêt là-bas du côté de Francfort. Il a fait une grosse saison. Transfert estimé à environ 7 millions d'euros. Il va signer pour 5 saisons, Kevin Trapp.
Messieurs, recrutement à venir à ce poste-là pour le PSG?
Je l'espère. C'est pas gagné, mais.
Sinon, tu fais quoi? Tu fais Aérola et c'est qui le 2?
Le gardien polonais qui est arrivé là. 19 ans.
Le fils de Sergueï?
Apparemment. C'est un L.
Boulka.
Ouais. Je me demande si ça annonce pas l'arrivée d'un gardien.
C'est pas possible autrement. Ouais. Ils vont pas faire. Ouais, je pense
un gardien numéro 2 alors?
Non, je pense qu'ils vont aller chercher
un gardien numéro 1.
Ouais.
Et après c'est Arola.
Le trouver là, un gardien numéro 1.
Après, c'est Arola qui fait, c'est pas simple. Il fait la tronche. Bah, on le sait, celui que Leonardo veut.
Donnarumma.
Il est dans son ancien club, quoi. Donc, mais après, le mec vient, Arola, il.
Enfin, Areola, il a eu, à maintes reprises, l'occasion de montrer qu'il pouvait avoir la stature.
D'accord avec toi, ça va pas empêcher de craquer.
Les derniers matchs amicaux, encore une fois.
D'accord avec toi, ça va pas empêcher que s'il voit un gardien arriver, il va pleurer, quoi.
Eh ben, il a qu'à pleurer.
Ah,
il a qu'à être meilleur.
Voilà qui est dit. Laurent Koscielny est à Bordeaux.
Ouais, vous allez en parler un peu plus tard, hein, mais visite médicale réussie pour Laurent Koscielny. Il y avait le doute, évidemment, puisque toute sa saison, en tout cas une bonne partie de la saison dernière, il l'a passé à l'infirmerie à cause de son tendon d'Achille. Ça a été officialisé par les Girondins, signature pour 3 ans. Il a même fait son premier entraînement. On l'a vu avec le sourire à côté de Costil notamment. Pour rappel, il y avait Rennes, Bordeaux sur le coup. La différence, elle s'est faite à deux niveaux. Le choix de Koscielny de se rapprocher de la Corrèze, Bordeaux. C'est plus proche de la Corrèze.
De Tulle.
Ouais, de Tulle, évidemment. Ouais. La ville des présidents.
Et de Laurent Koscielny, surtout.
Et de Laurent Koscielny, oui, qui a sauvé une entreprise là-bas et qui est maintenant chef d'entreprise là-bas. C'est plus proche de la Corrèze, donc, que Rennes. Et puis, l'indemnité de transfert, puisqu'il y a quand même 6 millions d'euros qui sont dépensés par Bordeaux sur ce dossier, alors que Rennes, il comptait plutôt sur le fait qu'il se libère de sa dernière saison.
Bordeaux aussi, je te le cache pas.
Et Bordeaux, il comptait évidemment là-dessus. Mais en tout cas, ils ont sorti le chéquier au dernier moment pour rappeler la mise.
On en parlera tout à l'heure du mercato de Bordeaux. Messieurs, on continue avec Miguel Trocco, qui est stéphanois.
Tiens, comment tu vas le dire d'ailleurs? Trauco. On va tenter Trauco. Miguel Trauco, qui est latéral gauche, qui est péruvien et qui donc a 26 ans. Il arrive de Flamengo, 1 million d'euros. Il avait seulement 6 mois de contrat encore à Flamengo. C'est ce qui a fait baisser aussi un petit peu l'addition. 3 ans de contrat pour Trauco.
Voilà, un arrière gauche à Saint-Etienne.
T'es content?
Je suis enthousiaste et surtout, je tiens à vous dire que je suis très enthousiaste sur la vidéo de présentation du club.
Elle est très belle.
Qui a très bien réussi son coup.
Tu peux l'être un meilleur arrière droit, je crois.
Arrière gauche de la
Copa América. Jonathan m'en a dit le plus grand bien, lui qui connaît très bien le football sud-américain. Non, c'est à 1 million d'euros, c'est un super coup.
En tout cas, c'est un beau pari de tenter. Gabriel Silva, en plus, qui revient d'une longue blessure, on ne sait pas trop où il en est.
Ils en sont où d'ailleurs avec Kolodziejczak? Ils ont réussi à trouver un accord ou pas?
L'accord n'est toujours pas trouvé et Kolodziejczak, de toute façon, s'il venait, aurait probablement plus une place de défenseur central dans le système et dans l'idée de Ghislain Printemps que sur le côté gauche. Là, il y a vraiment Gabriel Silva et maintenant Trauco.
Ghislain Printemps, toi qui connais bien Saint-Etienne, c'est fait, il reste vraiment, non?
Il reste vraiment.
Non, je suis parce que le championnat démarre ce week-end. On peut encore ouvrir les yeux.
Confirmer qu'il reste après.
C'est bon, c'est ça donc.
Ouais,
d'accord.
Il n'y a pas de piste.
Il va bien être entraîneur.
Il va être entraîneur numéro 1.
Va arriver.
D'ailleurs, il aimerait avoir quelques adjoints en plus. Il aimerait étoffer un petit peu son staff, notamment parce que son numéro 3, Julien Sablé, va passer son DEPF. Tiens, Jean-Louis Gasset, excellente idée.
En numéro 2.
On va la soumettre.
Ça peut être pas mal, ça.
Roland Romeillet. On passe, c'est officiel pour Ruben Aguilar à Montpellier.
Environ 10 millions d'euros, Ruben Aguilar à Montpellier. On le savait, un 5 ans de contrat. Il a 26 ans, il vient donc remplacer Djibril Sidibé, qui lui est parti à Everton. Et puis en début de soirée, Montpellier a annoncé Arnaud Souk. Ok, et par Arnaud Souk, je vous ai écouté hier soir.
Je comprends.
Confondu. Ah oui,
quand
même,
quand on a un homonyme dans la maison,
trois semaines de bonheur avec lui, évidemment, on l'embrasse. L'ancien histoire, Arnaud Souk, donc, qui est transféré pour un peu moins de 3 millions d'euros à Montpellier et qui vient le remplacer poste pour poste.
Le PSG va encore se séparer d'une de ses jeunes pépites, Angie.
Ça, c'est intéressant parce que on ne sait pas encore.
C'est pas pépite, pourquoi tu l'appelles pépite?
Potentiel pépite, Angie.
C'est vrai que j'avais écrit d'un jeune. Oui, potentiel pépite.
D'ailleurs, on sait
potentiel
pas.
Pépite.
À chaque fois qu'il y a un jeune dans un club, tout le monde dit c'est une pépite. Mais qu'on en sait.
Léane Gouclou, en l'occurrence.
Je recommence. Le PSG va encore se séparer d'un cave.
Non, d'un jeune.
Il peut signer un cave, on sait pas.
Bah ouais, voilà, tu sais pas si c'est un cave. C'est un jeune.
Donc, il s'agit de.
Mettez Anne Gouclou, il va quitter le Paris Saint-Germain. Il avait marqué, c'est pour ça qu'on dit que c'est une pépite, il avait marqué en Ligue 1 face à Nantes.
Je me souviens.
Quand même un exploit. Il a marqué aussi pendant la préparation avec le Paris Saint-Germain contre Sydney la semaine dernière. C'était un garçon très important dans la réserve du Paris Saint-Germain.
Qui n'existe plus.
Et c'est ça quand même l'intérêt de tous ces transferts. On sait pas exactement où il va atterrir. C'est juste que Leonardo préférait faire un transfert plutôt qu'un prêt, le fameux transfert avec les pourcentages à la revente. Il y a des clubs anglais, il y a des clubs néerlandais qui sont intéressés. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans cette situation, qui ont quitté le Paris Saint-Germain. Je pense à Apostolacci, bien sûr, Moussa Sissako et Cody Williams. Ça fait trois jeunes qui sont partis avec des pourcentages à la revente. On ne sait pas trop en fait ce qu'ils font avec leur ancienne réserve, les Parisiens.
Justement, en un mot, Daniel, c'est cette fuite des jeunes qui pourrait constituer l'avenir du Paris Saint-Germain. C'est pas inquiétant quand on a autant de moyens financiers qu'à Paris, ou quand même structurellement ça pose des questions.
J'espère que avant de les laisser partir, ils ont regardé quel était leur niveau, et j'espère que s'ils avaient vu un crack, bah, ils l'auraient pas laissé partir. Je pense qu'il y a pas de crack là-dedans.
Celui qui a été plutôt, c'est Dagba, ils l'ont gardé.
Voilà.
Ils le gardent. Donc
je pense que.
Il était déjà dans le groupe.
Bien sûr. Voilà. Je pense que s'il y avait des bons joueurs ou des joueurs capables d'intégrer l'effectif pro aujourd'hui et d'avoir ce niveau-là, bah, ils les auraient pas laissé partir, ces joueurs-là. Donc s'ils laissent partir, c'est qu'ils ont formé des mecs du produit standard. Comme beaucoup de clubs de Ligue 1.
Les offres sont alléchantes, en plus avec des pourcentages à la revente.
Quand tu peux vendre et que tu rentres un petit peu, quand tu rentres un petit peu de bif, t'es pas contre. Voilà. Ils l'ont fait, ils en ont vendu plein.
Souvent sur ces dossiers, ils espèrent avoir un petit peu de bif plus tard. C'est-à-dire qu'ils font le fameux pourcentage à la revente.
Exactement.
Ils en ont même laissé.
Parce qu'ils sont. Il y a cette nouvelle combine, quoi, cette façon de faire. Ouais, exactement. Non,
parce qu'ils vont dans des clubs qui vont leur permettre d'éclore
déjà de jouer tout simplement déjà.
J'espère ça, ouais.
C'est PSG jouerait pas, les mecs.
Du coup, c'est Leipzig.
C'est Leipzig, tu vois, c'est des clubs
le mec va jouer.
Pour le coup, se développe. Hein, 15 millions d'euros.
Ouais, mais bon, tu vois, par exemple, un mec comme Diaby qui a pas mal joué dans le début de saison dernière. Bon, ben, le gars, on a vu, franchement, il a une très bonne volonté sur le terrain, belle attitude, beaucoup de choses très positives chez ce garçon. Mais il peut pas jouer au PSG. Tout simplement, donc pour son bien à lui, vaut mieux que t'ailles jouer ailleurs, et puis t'auras plus de temps de jeu, et puis peut-être que tu pourras progresser, et ce sera génial pour toi.
On continue avec un transfert du côté de Monaco qui bloque encore. Ouais, ça commence à être inquiétant.
Bah oui, voilà, je vous en parle parce qu'il y a eu Soumaoro, il y a eu André Silva, les deux pour des raisons un peu différentes, soit visite médicale qui fonctionne pas, soit désaccord, on nous a dit financier au dernier moment pour André Silva. Là, c'est une histoire de visa. Alors le transfert est pas du tout avorté, il est simplement retardé pour l'instant. Donnie Kourou, le Nigérian qui devait signer, qui appartient à Everton, l'AS Monaco a mis 13 millions d'euros sur ce joueur. Et pour l'instant, les Monégasques attendent le visa. On ne sait pas. En tout cas, il y a un problème de visa. Il n'est pas arrivé en France. C'est-à-dire qu'il a un peu bourlingué. Il était en Turquie la saison dernière, prêté.
Galatasaray.
Ouais, à Galatasaray. Il a fait une saison complète là-bas. Il appartient à Everton. Donc peut-être qu'administrativement, les Monégasques n'arrivent pas à suivre, quoi.
Monaco, c'est un peu le chat noir du mercato, là, quand même. Ça commence à faire un peu beaucoup.
Bon, apparemment, c'est pas fini.
C'est pas avorté du tout. Voilà. C'est pas avorté du tout. Mais il y a encore un petit problème, un petit truc.
Après, c'est
le passeport dans le tiroir.
Soumaoro, il faut quand même le dire, il a été souvent blessé du côté de Lille. Bah oui. Donc il est pas impossible qu'ils aient détecté quelque chose. Et vu la saison dernière, le nombre de blessés qu'ils ont eu dans l'effectif, ils ont peut-être une petite crainte aussi de rajouter un joueur blessé de plus, donc c'est tout à fait légitime. C'est plus pour André Silva que c'était.
C'était flou, hein.
Ouais, c'était un peu plus flou.
Imbroglio à la Fekir, quoi. Il y avait le côté médical et puis le côté financier, on savait pas trop exactement ce qui.
Le Fekir, ça n'était pas que ça. Hein.
Oui.
Fekir, c'est aussi environnement qui veut des nouvelles choses.
Angie, on va passer aux nouvelles du mercato à l'étranger pour cette journée du 6 août, avec notamment le retour
la classe
de Wayne Rooney. en Angleterre.
Ça, c'est la classe quand même. Il va arriver en tant que, on connaissait pas trop ce terme avec coach Courbis, on en a parlé tout à l'heure, d'entraîneur adjoint joueur.
Si, si. Jean-Guy Wallem avait tenu ce poste.
Jean-Guy Wallem avait fait les deux, exactement.
Entraîneur joueur, on peut laisser entraîneur adjoint moins quand même.
T'as pas, c'est à Vincent Kompany qui fait, entraîneur joueur, lui, à Anderlecht.
Ouais, entraîneur joueur, c'est un truc qu'on a déjà vu.
Entraîneur adjoint, ça se fait plus longtemps, entraîneur
joueur. Avec quelqu'un.
Rudy Garcia.
Avec Rudy Garcia, exactement.
Je crois que le premier, un des premiers entraîneurs joueurs, c'est Jean-Michel Larqué au PSG. Ouais. Il a fait ça.
Ouais, en fait, entraîneur adjoint joueur, c'est pas capitaine, tout simplement.
Mais entraîneur joueur, c'est peut-être ça, ouais. Oui. Alors, pour le coup, il va venir derrière Philippe Cocu. Vous vous souvenez, le néerlandais?
Absolument. Mm-hmm.
C'est lui qui entraîne donc Derby County, où il va arriver. Ça va se faire en janvier, parce que pour l'instant, il est encore à DC United.
Peut-être après, il lui prendra sa place à Cocu.
Je pense que c'est un petit peu l'objectif. Ouais, non, bien joué, on note quand même.
João Cancelo quitte la Juve pour Manchester City.
João Cancelo, latéral droit portugais, 25 ans, 30 millions d'euros environ dépensés par,
c'est étonnant,
par Manchester City sur Cancelo. Ils prennent Danilo en échange aussi. Il y a 30 millions plus Danilo contre Cancelo. C'est ça le deal, ça devrait être officiel sous peu.
C'est un point de vue financier,
pourquoi
le deal.
Étonnant.
Parce que Cancelo me semblait être un...
C'est meilleur que Danilo.
Ça me semblait bon, ça me semblait être un joueur qui pouvait progresser. Et...
Peut-être besoin de sous.
Ouais, effectivement, le deal, il est bon.
Ah, ce qui t'étonne, c'est que la Juve le laisse partir.
Ouais, c'est ça.
Ah, ok.
Ouais. Mais j'ai l'impression, là, c'est quoi, ça va s'arrêter, là, jeudi, pour les Anglais.
Ouais, jeudi, 18h.
Il va se passer des trucs d'un coup, là. Ça va faire des...
Justement, on y vient.
Des coups de billard entre avec Dybala, Eriksen qui peut se barrer à Manchester, l'autre à Tottenham.
Enfin, déjà, ça peut être un cirque. Il y a une offre de Tottenham, non?
On y vient d'abord. Parler peut-être de la fin du feuilleton Dybala.
Ouais, Dybala justement annoncé pendant longtemps à Manchester United, vous l'avez suivi, etc. Mmh. Finalement, probablement pour des raisons salariales, il a pas du tout envie d'y aller. Sky Italia explique que la Juve et Tottenham sont tombés d'accord pour un transfert. Vous qui aimez les sous. De 70 millions d'euros. 70 millions d'euros sur Dybala.
C'est bien, hein.
Ça paraît honnête comme deal. Juste, il n'y a pas encore le principal deal dans cette histoire, c'est de tomber d'accord avec Dybala, puisque manifestement, il a de vraies prétentions salariales. Et ça, c'est pas encore fait.
Andy, on termine avec...
Il y a quand même des joueurs, là, dans ce profil. On va dire, 10. Qui sont sur le marché là.
Numéro 10.
Dybala, Rames.
Difficile à intégrer puisque tu joues plus. Les systèmes tactiques, les entraîneurs ne jouent quasiment plus avec de numéro 10.
Moi, je prends un entraîneur qui est capable de trouver comment faire jouer ce genre de mec parce que quand même.
C'est vrai qu'ils ont du mal à se faire jouer.
C'est quand même ça. Ouais. On termine avec Everton qui sont quand même à deux jours de la
première équipe. Dybala, avant que la Juve ne fasse pas le pari absolu de tout miser sur Cristiano Ronaldo, excuse-moi, il jouait. Dybala, l'année où il va en finale, la Juve et de la Ligue des Champions, c'est avec Dybala en vedette. Hein. Donc c'est pas si difficile de faire jouer Dybala quand même. C'est quand même un sacré joueur.
Je voulais vous dire en un mot, Everton qui s'enflamme, parce que tu disais le mercato va se terminer, c'est jeudi à 18h. Et effectivement, Everton s'enflamme complètement à la fin du mercato. Donc il y a eu Moise Kean, 30 millions d'euros plus 10 millions de bonus arrachés à la Juve.
Ils l'ont payé que 30 millions.
Ils l'ont payé 30 millions plus 10 de bonus. Et Everton est prêt, d'après le Sun, à mettre 68 millions d'euros sur Wilfried Zaha, qui a marqué 10 buts en 34 matchs à Crystal Palace. Et Everton, en plus de ça, est revenu à la charge sur Abdoulaye Doucouré, milieu de terrain de Watford. Ils ont fait une offre de 40 millions d'euros qui a été refusée. Il leur reste 48 heures, mais manifestement, ils ont beaucoup d'argent.
On oublie souvent qu'Everton est un club à blé.
Ouais,
absolument. Pas
beaucoup en Angleterre. Mais
Wilfried Zaha, faudra donc y penser à MPG pour ceux qui jouent en première ligue. On en parlera tout à l'heure d'MPG, c'est dans la deuxième partie.
On a deux secondes ou pas?
On a juste une seconde.
Les rumeurs sur l'échelonnement du paiement, la proposition de Barcelone, 150 plus 50 plus 50, c'est.
Tu sais que depuis que je travaille sur ce mercato, j'ai nommé Neymar de mon esprit, moi.
Ouais, je sais, mais c'est justifié tout
ça.
Ça
devait être en deux secondes, ça, cette histoire-là.
Une idée.
Ça devait être en deux secondes, cette affaire-là.
Bah, si on arrive à
regarder
en deux secondes, on appellera le Barça pour leur donner la recette.
Savoir si c'est une rumeur ou si c'est...
C'est clairement une rumeur. Ouais, ça deviendra peut-être une information sous peu, mais pour l'instant, c'est une rumeur.
Supporter bordelais, appelez-nous pour nous parler du mercato de Bordeaux, de la pré-saison de Bordeaux et surtout de l'arrivée de Laurent Koscielny. On parlera d'MPG, ce jeu qui cartonne une Fantasy League. On sera d'ailleurs avec l'un des cofondateurs, Benjamin Fouquet, sera en plateau avec nous et puis on jouera dans le quiz de l'after avec la possibilité de gagner FIFA 2020 sur PS4, un jeu qui sortira le 27 septembre prochain. À tout de suite, merci Angie.
RMC l'after foot.